a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
Now what's my definition?
A dream.
My definition.
A dream.
My definition. My definition is this, my definition.
A dream.
My definition. My definition.
A dream.
My definition is this.
I have a dream.
Bonjour escapadiens, escapadiennes, vous êtes en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire sur le 102.0, le 103.3 et le 104.1. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler toujours de littérature et poésie, d'Asie et d'Extrême-Asie. Là, nous allons aller aux confins de la Mongolie. Vous savez, cette petite tache bleue que certaines naissances se trouvent en bas du dos, qui est la marque de Genghis Khan. Voilà, alors, nous allons faire une petite introduction sur ce pays d'abord qu'est la Mongolie et son histoire, car la littérature arrive assez tardivement dans l'histoire de la Mongolie, qui fut jadis un carrefour de l'histoire de l'humanité. Là se sont déroulées des grandes migrations nomades qui font d'une histoire multiséculaire. Le pays mongol est un lieu chargé de cette histoire immémoriale, un lieu où le vaste patrimoine de la civilisation nomade, ses dialectes, ses cultures, ses coutumes, ont été perpétués dans leur forme originelle. Lecteur, si vous voulez ne pas manquer, allez à la rencontre du pays mongol. La littérature mongole incarne la richesse de ce patrimoine culturel. La langue mongole appartient à la famille dite des langues ouralo-altaïques. La littérature orale va de ces tout petits poèmes de deux vers qu'on appelle double vers ou épopées les plus élaborées, dont la récitation peut durer un mois entier. Donc vous voyez un petit peu. De ces chefs-d'œuvre de la littérature orale ont été mises par écrit notamment les épopées de Gézar, de Jangar, mais aussi évidemment l'histoire du lignage d'or de Genghis Khan. Témoignage de l'époque de l'Empire, qu'on trouve rapporté dans l'histoire secrète des Mongols, que je vous souhaite d'aller voir, c'est magnifique. Ces œuvres remarquables d'origine mongole prennent véritablement place au rang des chefs-d'œuvre de la littérature et de l'humanité. L'origine de la littérature écrite mongole proprement dite remonte au XIIIe siècle. Dès cette époque, grâce à l'ordre de Genghis Khan d'établir une écriture pour l'État mongol, on en trouve de nombreux exemples. Le moine Joiji Ötzer, qui vécut au XIVe siècle, est connu aussi bien pour ses œuvres écrites directement en mongol que pour ses traductions. À cette époque, en effet, on traduit les livres sacrés depuis le sanskrit, le persan, le chinois, l'ouïghour ou le tibétain. Et c'est par les échanges avec l'étranger que la littérature mongole s'étoffe et prend son essor. En signe de respect pour la lettre écrite, on gravait alors les textes sur de l'écorce de bouleau, sur les parois rocheuses, sur les métaux et pierres précieuses comme l'or, l'argent, et plus largement sur ces métaux précieux qu'on nomme en mongol les neuf joyaux. Ainsi, en 1624, le prince généralissime et poète Zhou Taiji a gravé sur la pierre un poème préservé jusqu'à nos jours près de 400 ans plus tard. Appelé le roc chantant, la pierre sur laquelle le poème est transcrit en alphabet mongol possède l'étonnante capacité de faire résonner le son, constituant un monument très particulier. Ces objets constituent aujourd'hui un héritage inestimable. Le XVIe siècle connaît un nouveau mouvement d'importation et de traduction des ouvrages savants venus d'Inde. Ganjur et Danjur, et bien d'autres encore, ce sont rien moins que 335 volumes de textes qui sont transcrits en alphabet mongol et qui sont aujourd'hui encore préservés à la Bibliothèque nationale de Mongolie. Suite à cette petite présentation, je vous conduis à écouter Limousin avec In Our Lives. Jolie voix de Monsieur Limousin dans In Our Lives. Petite chanson que vous pouvez retrouver dans une petite série qui s'appelle Iron Family, un joli petit vaudeville de famille qui est très sympathique à regarder si vous en avez marre du sang et des horreurs. Voilà, petite parenthèse faite, je vous continue la petite histoire, évidemment, de la Mongolie, de la littérature mongole, qui a évolué au 19e siècle. La littérature mongole prend de l'ampleur et adopte la forme classique de poèmes, pièces de théâtre ou romans, tous remarquables. Le plus éminent représentant de cette période est le poète, dramaturge, metteur en scène, savant, versé en de nombreux arts et moine illuminé, Dandzaravadja, 1803-1856. Mais celui qui éleva la littérature mongole du 19e siècle au niveau d'un grand art classique est Ingenach, 1837-1892. De lui nous reste entre autres romans Les Chroniques bleues, Le pavillon à étages, La chambre des larmes rouges, ainsi qu'un grand nombre de poèmes et de nouvelles. Au début du XXe siècle, avec d'abord la révolution de 1911, puis la révolution populaire de 1921 qui consacre l'indépendance de la Mongolie, le sentiment d'une nation mongole autonome gagne en importance. Or, c'est justement à cette époque que la littérature mongole souffre aux influences occidentales. Ayant étudié en Allemagne, en France, en Russie, de jeunes auteurs brillants, tout en promouvant la traduction des littératures occidentales, se jettent à corps perdu dans l'écriture, tout genre confondu. Les représentants de cette génération se nomment Natsa Dodje, Bruyan Nemmek, Dandim Suren, Rinchen, Namdag, Navahanyunden. Ces auteurs puisent à leur source la sève des œuvres occidentales pour en irriguer les formes orientales locales. Le développement de cette littérature nationale coïncide avec les débuts de la période révolutionnaire. Imprégnés des plus jeunes âges par une éducation reçue en Allemagne, en Russie, Natsa Dodje composa ainsi aussi bien des poèmes, des œuvres de fiction ou des pièces de théâtre, ouvrages admirables grâce auxquels il est considéré aujourd'hui à juste titre comme le père fondateur de la littérature contemporaine mongole. En 1937, sous la puissante influence de l'idéologie soviétique, des purges touchèrent la Mongolie, notamment dans le domaine culturel, et détruisirent un grand nombre de patrimoines culturels et intellectuels mongols. Ces purges conduisirent à l'élimination de nombreux auteurs parmi les plus brillants. Mais au milieu du XXe siècle, vit l'émergence de nombreux auteurs et de grands talents. Heureusement, le XXe siècle dans son ensemble a été marqué par la traduction depuis les langues originales de grandes œuvres de la littérature mondiale, ce qui en fait en quelque sorte ce que j'appellerai le siècle de l'Occident dans la littérature mongole. C'est précisément dans ces bases que s'établit le renouveau contemporain de la littérature mongole. À la fin du XXe siècle, la Mongolie effectue sa transition vers la démocratie occidentale avec toutes ses conséquences. Libérée d'un joug idéologique, elle a aussi ouvert ses relations internationales, autrefois cantonnées aux pays socialistes. Et grandes tendances et courants littéraires venus du monde entier se sont mis à irriguer librement la littérature mongole. Alors, dans cette littérature mongole, nous avons un grand panneau, c'est-à-dire une grande fresque, qui s'appelle l'histoire secrète des Mongols. Et cette histoire secrète des Mongols, ou appelée aussi Yuan Chao Piche, a été transcrite en caractère chinois dans la seconde moitié du XIVe siècle, avant l'époque où fut constitué le recueil connu sous le nom de Huaiyiyu. C'est-à-dire avant 1382 et vraisemblablement peu après 1368. Il semble qu'elle fut ainsi transcrite dans un but pratique pour servir d'exercice dans les bureaux des interprètes et des traducteurs. Elle est formée de deux textes, le texte mongol transcrit en caractère chinois avec traduction interlinéaire et une traduction chinoise faite en langue vulgaire, qui offre des différentes sensibilité du texte mongol et paraît avoir été faite sur un original différent. Et grâce à Paul Pelliot, qui a établi son texte d'après les leçons de plusieurs manuscrits, nous pouvons à présent voir des traductions, mais malheureusement par moments inachevées. Il a utilisé en outre les textes publiés en 1908 par Yi Touyi, les textes conservés à Leningrad, remis en mongol par Potzeniev, et qui a été très défectueux, car ces textes, évidemment, sont transcrits sur des papiers ou sur des pots qui ont mal vieilli. Mais bon, avec beaucoup d'intention, ils ont pu récupérer toute cette épopée qui transmet, évidemment, toute l'histoire des familles mongoles et toute leur chronologie, ce qui est très très beau à lire. Alors l'histoire secrète de Genghis Khan, évidemment, il en fait partie de cette épopée familiale et de son empire, en dépit du grand intérêt qu'elle offre et des efforts qui ont été tentés pour le retracer, est particulièrement quand même difficile à reconstituer. Mais les sources les plus variées doivent être mises en œuvre, autant du côté chinois, mongol, persan, arabe, arménien, russe, latine. Car il a touché beaucoup de peuples, monsieur Genghis Khan. Et une sorte de fatalité a pesé sur celle que nous devrait être
du plus grand secours, c'est-à-dire l'histoire officielle chinoise de la dynastie mongole et la chronique persane de Rachid ud-Din. Et c'est pour ça que par rapport à la poésie syrienne que je vous ai fait dans la précédente émission, nous verrons l'osmose finalement qui se rejoint entre la partie persane et la partie mongole. Il y a vraiment, et ça c'est le monde des Ouïghours qui font la jonction de ces superbes poésies. Hyacinthe, dans sa traduction de l'histoire des quatre premiers khans, la chronique persane de Rachid ud-Din, vous voyez, c'est là que se fait la jonction, ne nous est pas parvenue intégralement, malheureusement. Ce quadrimère a donné jadis une excellente édition, avec traduction richement annotée de l'histoire des premiers oulagides de Perse, la description des tribus et l'histoire de Gengis Khan. Éditées et traduites par Bérezène, sont restées si peu connues en Europe occidentale, mais arrivent quand même en 1906 dans son histoire de la littérature persane. Voilà, nous allons faire à nouveau une petite pause musicale, toujours en compagnie de Li Mujin, avec Lilac. Limoujine avec Lilac. Nous poursuivons notre petite conquête mongole littéraire et poétique avec l'histoire secrète des Mongols, qui nous a en outre conservé des morceaux de poésie épique populaire dont les chroniques du XVIIe siècle ne connaissaient plus qu'un texte mutilé et altéré. Enfin, et pour paradoxal que ce résultat puisse paraître, cette transcription de l'histoire secrète des Mongols nous permet de fixer dans certains cas, pour la prononciation de certains mots chinois dans la Chine du Nord, dans la seconde moitié du XIVe siècle, des prononciations que nous ne faisions que soupçonnées ou auxquelles même nous ne nous attendions aucunement. Mais je vais vous faire part du tout début, évidemment, de l'histoire secrète des Mongols, les premiers textes, qui sont évidemment des textes poétiques, mais aussi généalogiques. L'origine de Singin Kahan est Bortasino, le loup, venu naître du ciel qui est en haut, par mandat céleste, l'épouse de celui-ci est Kohaimaral, la biche fauve. Il vint ici en traversant la mer, alors qu'il avait fixé son campement à la source du fleuve Onon. Oh, mon Burkan Kaldun, il y eut né deux Batasikan. Première partie. Deuxième partie, ce ne sont que des petits textes numérotés. Le fils de Batasikan fut Tamaka, le fils de Tamaka fut Korikar Margan. Le fils de Korikar Margan fut Haoui Jamborul. Le fils de Jamborul fut Salikasaou. Le fils de Salikasaou fut Yakanidun. Le fils de Yakanidun fut Samsoki. Le fils de Samsoki fut Karsu. 3. Le fils de Karsu, Bojindai Majan, qui eut pour épouse Modijan Kao, Koa, pardon, le fils de Bodkarju et Torogajin, dont l'épouse était Boroksin Koa, et qui avait le jeune Boraldai Suyalbi et les deux coursiers ongres Dahir et Boro. Il n'avait qu'un seul œil au milieu du front. Il pouvait voir au loin, à une distance de 3 étapes, dit-on. Un jour, Dawa Sokor sortit sur le Burkan Kaldum avec son cadet, Dobun Magan. Du haut du Barkun Kaldum, Dawa Sokor regarda au loin et aperçut de loin une troupe de gens en transhumance qui venaient entrer dans la région en suivant la rivière Tongalik. Il dit, au milieu de ces gens qui viennent en transhumance, il y a une belle fille à l'avant d'une charrette noire. Si elle n'a pas encore été donnée à un homme, nous la demanderons pour toi, mon cadet, Dobun Margan. Ce disant, il envoya son cadet, Dobun Margan, pour voir. Quand Dobun Margan parvint à ces gens, c'était en vérité une très belle fille de grand renom appelée Alan Koa et qui n'avait encore été donnée à aucun homme. Pour ce qui est de ce groupe de gens, antérieurement, la fille de Barkudai Margan, seigneur de Kolkbajun Turgun, fille appelée Barkudjin Koa, avait été donnée à Korilarta Margan, noble des Karitumates. Dans le territoire des Karitumates, à Harikusun, cette fille appelée Alan Koa était née à Korilaritai Margan de Marjinkun Koa. Et c'est ainsi de suite qu'il raconte sur tout le territoire des Karitumates, on a mis un interdit sur le territoire riche en zébelines, en écureuils et en bêtes sauvages. Corinne Larta Margan, en cause du ressentiment, il prit le nom du clan de Corillard en disant qu'au Burkan Kadum, le territoire était bon et bon pour la chasse des bêtes sauvages. Il venait transhumer auprès des seigneurs. C'est ainsi que tout fut permis après ce beau mariage. Alan Koa, une fois venu chez Dobun Magan, mit au monde 2 fils. Et vous l'avez compris, ainsi de suite, l'un appelé Burgunutai et l'autre Balgunutai. Et ainsi de suite, nous avons les histoires des frères aînés, des sœurs, des cousins et des alliances pour les transhumances et le partage des bêtes. C'est ainsi que chaque étape, vous voyez la poésie évoluer, mais par contre qui est à la fois un registre assez froid et très peu poétique. Toutefois, il existe d'autres chroniques mongoles, qui est elle un document de premier ordre, mais dont la conversation est due non aux mongols mais aux chinois. C'est ce Yanchao Piche, cette histoire secrète, mais qui a été un peu évoluée au XIVe siècle par le règne de Odogdai, qui fut traduite en langue chinoise mais vulgaire. Mais Orfort, qui l'a connu qu'après l'achèvement de son histoire et de son ouvrage, Blocher l'a ignoré, mais Palladius signalait en outre, un autre écrivain, qu'il y avait encore des manuscrits d'une transcription, et non pas une, au caractère chinois d'un texte original mongol. Postérieurement à sa traduction, Palladius put se procurer un de ces manuscrits qu'il donna, et puis qu'il fit traduire à Petrograd, à l'université de Petrograd. Et ce fut publié en 1880. Il est aujourd'hui presque introuvable. Nous allons faire à nouveau cette petite pause musicale, toujours en compagnie de Limujin avec When He Snows. En compagnie toujours de Limujin, et là c'était When It Snows. Alors, vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire, qui vous parle donc de poésie et de littérature mongole. jusqu'à présent, je vous ai parlé évidemment de l'histoire secrète des Mongols. Mais nous avons aussi, sous l'angle de Maria Sagal, les procédés stylistiques de la poésie populaire mongole. Jusqu'à présent, les analyses des chants populaires mongols ont porté surtout sur la métrique, en négligeant l'aspect stylistique. Celui-ci n'a été étudié que pour les épopées et sporadiquement pour certaines chroniques. Alors, Maria Sagal traite ici des procédés stylistiques récurrents dans les chants lyriques réunis dans les recueils d'un mongol Ardin Dhunud. On est d'abord frappé par l'absence presque complète des métaphores caractéristiques de la poésie savante. Pour exprimer les sentiments, les Mongols emploient en poésie les expressions usuelles qui signalent les altérations du corps accompagnant celles des sentiments et rattachent les phénomènes de l'esprit à certains organes internes. Ainsi, des images physiques sont-elles liées à la poitrine, au cœur et au foie. Par exemple, ce qui ne sort pas est caché dans la poitrine, c'est notre affaire à nous deux. Par exemple aussi, vous avez « Les trois ormes de la pente sud brillent mieux que les joyaux, les trois ormes de la pente nord brillent mieux que le nord. Ce petit, c'est un amour, le chéri rencontré. Petite demoiselle Donjo, c'est une femme au gentil caractère. Mandunjaha semble au soleil levant. Mandunjaha, semblable au soleil de midi. » Le petit oiseau du précipice nord, en suivant le flanc nord, gazouille. Le jeune gardien de chevaux, tenant son lasso, galope. Le petit oiseau de précipice ombragé, en suivant l'ombre, gazouille. Ma bergère d'élection, en tenant son fouet court. Le petit oiseau de la courbe du lac salé, au milieu de la courbe, gazouille. La petite demoiselle à l'œil vif, en tenant son fouet court. La répétition souvent du personnage dans différentes situations à peine évoluées précipite le poète en répétition. Et c'est ainsi qu'il fait évoluer les mots et les sensations. Vous avez aussi le chien aboie. Il aboie très fort, il aboie de façon effrayante et il aboie en hurlant. C'est ainsi que par les répétitions dans la poésie populaire, simple remplace souvent les pluriels. Il n'emploie pas les pluriels, mais il préfère répéter. Sur les eaux, mon poulain baie trembale, moi. Sur les agrostides, cheval baie aux oreilles pendantes trembale, moi. Nous avons ensuite, je vais terminer par là, une belle poésie par Ombrefeuille. C'est le vent qui accourt, qui surgit sur les plaines, qui s'enroule au ciel brut, qui se plaint, qui rugit, qui se tait, qui s'endort, qui renaît, qui mugit, qui s'en va déchirer les aurores lointaines. C'est le trot, le galop du cheval sous la nue, c'est le sabre élevé, c'est le cri des guerriers, c'est l'élan des meilleurs, des premiers et des derniers. C'est l'ailleurs, l'horizon, c'est la terre inconnue. C'est le train qui s'en vient de là-bas, de Russie, son éclat, son appel, ses arrêts, ses départs. C'est son nom effleuré, son renom, son regard, c'est la ville attendue, c'est la steppe engourdie. C'est la vie qui nous prend, c'est sa danse et sa braise. C'est la mère et l'enfant, les vieillards, les époux. C'est le froid, l'air glacé de la lune et des loups. C'est la mort acceptée, c'est le jour qui s'apaise. Point de suspension, parce que celui-ci dure un mois. Alors sur ces belles paroles, je vais vous quitter en poésie donc mongole et avec toujours Limujin, Ren and You.
싶은 마음도 없죠. 지쳐가네요 조용하게 알 수 없는 건 그런 내 맘이 비가 오면 눈물이 나요 아주 오래전 당신 떠나던 그날처럼 이제